t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier numéro de Parole aux auditeurs de ce mois de juillet 2019. Les évêques de la RDC recommandent au président de la République d'assumer pleinement ses responsabilités de chef d'État et d'échanger les systèmes de gouvernance. Ils lui demandent également de redorer les blasons de la magistrature, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle, de façon que le peuple ait confiance en la justice. Ces recommandations ont été formulées à l'issue de la 56e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, tenue à Kinshasa la semaine dernière. Quels pourraient être, selon vous, les préalables pour y arriver? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Mimi Kindou, Nico Kalambay, est à la réalisation et Pierrot et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et les évêques ont aussi souhaité de voir la réforme menée pour la dépolitisation de la CENI au-delà de ces recommandations. Et pour en parler, nous avons en ligne Maître Gabin Lulendo, avocat, porte-parole adjoint de l'UNC et communicateur du CASH. Maître Gabin Lulendo, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Et comment d'abord réagissez-vous d'emblée à ces recommandations de la CENCO au chef de l'État?
Bon, mais la CENCO, c'est un acteur important de la vie nationale. Lorsqu'elle s'est réunie et fait ses recommandations, et surtout si ses recommandations sont pertinentes, ça doit attirer l'attention tout à fait particulière des autorités du pays. Donc, nous suivons de près les recommandations qui sont faites par la CENI, et tout naturellement, le premier d'entre nous tous, le président de la République. Et puis après, on peut examiner point par point quel est l'essence et le contenu réel de ces recommandations. Parce que j'ai toujours dit, si on dit améliorer la gouvernance, ça c'est ce que chacun de nous sait, qu'il faut améliorer la gouvernance dans ce pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président de la République, Félix Tshisekedi, se bat bec et ongles pour arriver à améliorer la gouvernance. Bon, maintenant, il est question maintenant de savoir le contenu que les évêques donnent à l'amélioration de la gouvernance et aussi la dépolitisation de la CENI. Qu'est-ce qu'on entend par dépolitiser la CENI? Et si nous connaissons les contenus, eh bien, on peut voir dans quelle mesure aller dans un sens tout comme dans l'autre. Donc, bref, ces propositions sont les bienvenues. Les présidents restent très regardants vis-à-vis de tout ce qui s'est fait à travers la République.
Mmh. Mais on sait que quand dans la question de la gouvernance, on sait qu'on a beaucoup dénoncé la corruption, les trafics d'influence, la dilapidation des deniers publics. Ce sont des éléments qui ont été évoqués depuis des décennies dans notre pays sur la question de la gouvernance. On estime aussi que il faut réformer la Cour constitutionnelle partant de derniers problèmes de ce qui a été soulevé avec l'examen des contentieux des élections législatives nationales. Alors, il y a la question de la députation de la CENI. On estime qu'il serait mieux qu'elle soit composée plus par la société civile, que ça peut résoudre le problème des contentieux
de contestation des résultats. Mais est-ce que ce genre de réforme, comment le chef de l'État peut-il les mener? Faudrait-il convoquer les gens qui discutent autour de ces réformes, ou ça peut être des son initiatives si cela s'avère que c'est important de le faire?
Vous savez que dans ces pays, on a toujours pensé que les remplacements des hommes par d'autres hommes régleraient le problème. Le problème ne se pose pas en ces termes-là. On peut remplacer tel, on met tel autre. S'il n'y a pas la volonté de pouvoir changer, les choses ne changeront pas. Est-ce que vous pensez que les présidents de la CENI, il est lui-même de la société civile? Et pourtant, chacun a pu, d'une façon ou d'une autre, décrier son travail, et pourtant, il est de la société civile. Nous avons besoin du changement de l'homme congolais. Il faut que l'homme congolais comprenne qu'effectivement, lorsqu'on accède au pouvoir ou lorsqu'on gère les institutions, on doit gérer les institutions pour l'intérêt de tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de fonctionnement, aussi bien au niveau de la CENI qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, mais réfléchissons là-dessus froidement en regardant les jeux et les enjeux, en regardant ce qui est bon pour le peuple congolais, parce que nous avons besoin des institutions qui répondent à l'intérêt général, des institutions adéquates pour défendre l'intérêt général, l'intérêt de chacun de Congolais. Mais si on va en termes de... Moi, je ne pense pas que la société civile est composée des anges. D'ailleurs, celui qui est décrié aujourd'hui, Corneille Nangaa, il est issu de la société civile. Est-ce qu'on pense que si on prend seulement les gens de la société civile, on les mettait là-bas, à supposer qu'ils soient aussi téléguidés, les mêmes causes produiront les mêmes effets? Réfléchissons en profondeur, au lieu bien évidemment qu'on fasse des propositions cosmétiques. Le Congo a un problème d'hommes, il faut bien évidemment trouver des hommes intègres pour gérer les institutions afin de défendre l'intérêt général. Le problème se situe plus à ces niveaux-là. Donc, mais dire oui, on va mettre la société civile, oui, on va faire ceci, on peut le faire, mais si c'est pas des gens intègres, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on assistera à la même chose.
Merci beaucoup, maître. On vous garde en ligne. Il y a Sylvain qui est à Lubumbashi, Olivier est à Kikwita. Ce sont les auditeurs qui nous ont rejoints. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets. Vous l'avez dit, le problème c'est au niveau de l'homme. L'homme doit changer sa manière de penser. Si on doit réformer, comme la CENCO l'a souhaité, dépolitiser la CENI, beaucoup de gens estiment qu'il fallait que la CENI soit entre les mains de la société civile. Vous l'avez dit, ce sont des hommes. Mais si les gens n'ont pas pensé, n'échangent pas leur manière de penser, ça va être compliqué. Et la question de la justice, c'est la même chose. C'est le type d'homme qui gère les institutions, qui doit comprendre l'intérêt général au lieu de l'intérêt privé. Sylvain, merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs des radios KP. Bonjour à vous-même.
On vous écoute.
Oui, je crois que nous l'avons dit, il faut réformer la façon de gouverner l'État. Nous devons réformer notre pensée, de penser la République. Nous devons repenser notre façon de voir le fonctionnement des institutions. Donc, moi j'ai dit que pour y parvenir, il faut réellement une indépendance des institutions. Il faut réellement une séparation des pouvoirs. L'institution présidente de la République doit rester dans les limites de ses prérogatives de reconnues par la Constitution. La CENI, par exemple, parce qu'elle fonctionne sur base d'une loi, la CENI doit répondre sur base de cette loi, et les magistrats aussi doivent tirer leurs compétences, leurs pouvoirs par les lois qui les régissent. Parce qu'il y a il y a la loi sur le statut des magistrats, il y a la loi sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il y a les lois sur le fonctionnement du Conseil d'État. Donc, toutes ces différentes institutions doivent fonctionner conformément aux lois qui les régissent. Voyez, les gens confondent un peu quand on dit que le président de la République est le garant de la nation, il est le garant des bons fonctionnements de l'arbitre. Mais son arbitrage, c'est quand, lorsqu'il remarque réellement que telle institution s'est détournée de sa mission et n'a pas bien fonctionné. C'est là où le président de la République pouvait intervenir pour rappeler à l'ordre cela. Mais ici, ce qu'il y a dans notre pays, l'arbitrage, bien l'intervention, c'est pour le pouvoir du président de la République est mal interprété. Même là où le président de la République pouvait ne pas tenir des injonctions, il donne. Là où peut-être l'institution elle-même devait bien travailler, mais le président de la République pouvait venir avec des injonctions qui sont négatives conformément à la loi. Voilà. À la magistrature, nous devons des hommes intègres. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont fini à l'université, qui sont compétents aujourd'hui. Et vous verrez même que dans le fonctionnement, pas seulement de la Cour constitutionnelle, parce que si on a décrié hier ici qu'on avait 7 magistrats selon le président de la Cour constitutionnelle, et donc en 60 jours examinés, 1224 dossiers, c'était pratiquement impossible. Mais pourquoi? Même si la loi a prévu qu'on a 9 magistrats, mais il y a d'autres possibilités. On peut adjoindre des magistrats référendaires. Mais pourquoi est-ce qu'on a attendu qu'il faut dépasser 4-6 mois pour venir aujourd'hui dire qu'on rectifie les erreurs matérielles, alors qu'on a la loi qui nous donne la possibilité de trouver d'autres juges, même sur le plan international, qui ont de l'expertise, qui peuvent venir nous aider. Vous voyez, il y a un problème de fonctionnement des institutions, il y a un problème d'indépendance, de la moralité et de l'honnêteté scientifique même elle-même. Parce que moi, en étant, ça m'écœure, je suis moi-même avocat, mais quand j'entends des fois, même les professeurs qui m'ont enseigné à l'université, prendre de telles positions hier, mais aujourd'hui, ils adoptent une autre position. J'ai entendu des choses dire, par exemple, que l'ordonnance du président de la République n'est pas ordonnance parce qu'il y a contre-sein du Premier ministre. Je me suis posé la question de dire, mais c'est quoi? Il faut maintenant élaguer la linéa dernière de l'article 81 pour qu'on reste dans cette logique ou bien il faut commencer des violations en violation de la loi. Donc,
Alors ça, c'est important ce que vous dites, Sylvain. Pour vous, il faut tout simplement respecter les lois. Nous avons la Constitution, nous avons les lois de la République. Il faut l'indépendance des institutions, il faut la séparation de pouvoirs. Si on respecte les lois, chaque institution respecte les lois. C'est ça, la bonne gouvernance, c'est le respect des lois. Merci beaucoup, Sylvain. Olivier, vous êtes à Kikwit. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Pierrot, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et à l'invité.
On vous écoute.
Oui, voilà. Moi, je vais toujours considérer les travaux de ceux qui nous ont précédés dans ce domaine de la démocratie. Les rédacteurs de la Constitution américaine avaient déjà dit que l'homme n'était pas un ange. Et ils sont partis de ce principe-là. Et donc, pour qu'on puisse mettre fin ou pour qu'on puisse contrecarrer les déviations de l'homme, il a fallu qu'on mette au point des textes qui pouvaient permettre de servir de garde-fou. Alors, il faut alors mettre des dispositions telles que la loi soit opposable à tous. Président, vice-président, jusqu'au huissier, il faut que tout le monde soit vraiment ait le même statut devant la loi. Ça, c'est la première chose. Alors, les autres préalables, si nous voulons que les choses avancent selon les recommandations des évêques, il faudrait que le président accepte avec sportivité les reproches ou les critiques, d'où qu'elles viennent. Surtout lorsque ces critiques ou ces reproches sont vérifiables. Alors, la deuxième chose, il faut que le président se réjouisse d'avoir des gens qui peuvent lui dire des vérités. Et des vérités sur base des constats réels. Il y a la troisième chose que je trouve aussi très importante, il faudrait que le président se méfie et qu'il puisse avoir le temps de voir comment se comporte l'entourage et ce que dit l'entourage. Parce que souvenez-vous, dans le passé, on a eu dans l'entourage du président des flatteurs qui ont cherché à faire croire au président que les textes lui donnaient le droit de briguer un troisième mandat. Alors, déjà comme ça, il y en a toujours dans l'entourage des chefs. Et donc, alors, je crois qu'il y a maintenant les faits réels. Le président a reconnu, il y a 3 jours, c'était le 30, sur RFI, que certains arrêts de la Cour constitutionnelle étaient vraiment scandaleux. Vous comprenez qu'à ce moment-là, si les arrêts sont scandaleux et si tout le monde les reconnaît comme tels, je crois que, comme le disait l'invité tout à l'heure, le garant de la République et le garant de la nation, il faut qu'il prenne des mesures. Alors, on ne doit pas donc dire changer les hommes, ça va résoudre le problème. Il faudrait que les textes, on puisse rendre les textes opposables à tous et qu'il y ait des dispositions qui puissent permettre cela. Ça, ce sont des choses qui sont faciles. Alors, si nous prenons les choses que nous vivons, l'ODEP, l'Observatoire des dépenses publiques, a fait un petit rapport il y a quelques jours où elle a déploré des dépenses qu'on ne sait pas chiffrer. Alors, vous voyez que ces choses-là, s'il n'y a pas des institutions qui peuvent servir de garde-fou pour dire attention présidence, attention primature, attention ceci, eh bien, et si on ne doit pas permettre au Parlement, si le Parlement n'a pas de mots à dire dans une république, Pierrot, c'est une catastrophe. Et donc, je crois qu'il faudrait qu'il y ait le Parlement joue son rôle et que les personnes qui sont là, les députés, puissent être, qu'ils puissent avoir, prendre la mesure de leurs responsabilités. Je crois que ça, ça va nous permettre d'avancer, Pierrot. Voilà ce que je peux dire.
Merci beaucoup, Olivier. Vous estimez qu'il faut d'abord des préalables, c'est que s'il y a par exemple des critiques formulées à l'endroit du chef de l'État, qu'il les accepte et surtout qu'on vérifie s'il y a des choses vraies, et il faut surveiller l'entourage. Mais tout passe par le respect hein, des lois, vous l'avez dit. Si on reconnaît qu'il y a des choses qui sont faites dans le pays, dans le cadre de la gouvernance, qui ne respectent pas la loi, il faut arriver à s'amender et mettre de l'ordre, que ceux qui contrôlent, contrôlent. C'est de cette façon-là qu'on peut améliorer la gouvernance et avancer. Merci beaucoup, Franck. Vous êtes à Vienne. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, mon ami Pierrot. Je m'excuse avant d'intervenir. Nous avons encore des problèmes de connexion. On ne sait pas vous capter sur Internet. Si bien que là, je ne sais pas ce que notre compatriote a déjà dit, mais je vous remercie pour la confiance et je vais tenter de présenter ma petite contribution en quatre petits points. Au premier point, je vais tenter de resituer le cadre dans lequel les évêques réunis au sein de la CENCO arrivent à faire leur déclaration. Au deuxième, on tenterait de voir sous quelle casquette arrivent-ils à faire de telles déclarations et pourquoi, les raisons d'être de leurs déclarations. Au troisième, ça serait peut-être une petite analyse interne de notre situation sociopolitique, son état d'esprit, son état d'être actuel, puis quelques suggestions pratiques. Par rapport au premier point, les évêques réunis au sein de la CENCO se rencontrent annuellement deux fois ou trois fois, en assemblée plénière ou des sessions, et quand ils se rencontrent, quand ils se réunissent, ils ont des commissions, ils travaillent en commission, et au sein de chaque commission, il y a des experts par rapport à certaines matières. Si bien que quand ils sont réunis en assemblée plénière, ils tentent d'évaluer aussi la situation sociopolitique du pays sur base de ce qui s'est fait constater, et ainsi, à la fin de leurs travaux, ils arrivent à émettre certaines déclarations qui peuvent toujours avoir des parallélismes ou qui ont souvent des parallélismes avec ce que le peuple congolais dans son ensemble est en train de vivre. Par rapport au deuxième point, il y en a qui se demandent pourquoi les évêques doivent toujours, on cesserait de le rappeler que les évêques réunis au sein de cette structure, ils interviennent d'abord comme des pasteurs d'une église hiérarchique, d'une église universelle, qui est hiérarchiquement représenté dans beaucoup de coins du pays. Les évêques interviennent comme des citoyens congolais, ils sont des citoyens congolais à part entière, et ce qui se passe dans notre pays ne doit pas les échapper parce que la politique et la religion ont comme dénominateur commun le traitement de l'homme, la vie de l'homme. Donc cet homme que la politique cherche à servir, c'est le même homme que la Bible ou la religion cherche aussi à guider et à nourrir. Et comme cet homme vit dans une terre, dans un contexte, on ne doit pas toujours faire abstraction de ce contexte dans lequel ces hommes vivent. C'est comme ça que parfois, il y en a qui s'étonnent, est-ce que les évêques doivent s'interférer dans des situations politiques? Ils ne s'interfèrent pas. Ils interviennent comme pasteurs. Et quand un pasteur émet son point de vue, un pasteur, c'est comme un gardien du temple. C'est à ceux à qui la parole est adressée d'en tenir compte. Au troisième point, c'est la situation sociopolitique dans laquelle nous nous trouvons. Et personnellement, moi, parfois, ça me gêne de voir nos compatriotes parfois dire ce que beaucoup de gens voient dans un autre sens. C'est vrai que chacun a sa manière de voir, d'évaluer. Mais si nous devons vraiment revoir notre situation sociopolitique dans laquelle pas seulement une minorité de citoyens se trouve, mais la majorité, vraiment en toute honnêteté, en toute humanité, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de loyauté, il y a lieu de reconnaître qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore. Il y a la mauvaise gouvernance, il y a existence et la mauvaise gouvernance. Comme il y a existence et la mauvaise gouvernance, comme conséquence, il y a des dysfonctionnements au sein de certains services. Parfois, il y a des dysfonctionnements au sein de l'exécutif. Il y a parfois des dysfonctionnements au sein du pouvoir législatif, même au sein du pouvoir judiciaire. Et quand déjà, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas, la République, ça marche comme un tout. Quand une structure ne sait pas convenablement marcher, quand ça ne marche pas quelque part, il y a des répercussions ailleurs. C'est comme le corps d'un homme. Quand vous avez mal à la tête, Parfois, vous n'avez plus du courage pour marcher ou bien pour faire votre footing chaque jour. Alors, c'est question d'abord de se rendre compte de l'endroit où nous sommes, quelle est la situation sociopolitique dans laquelle plus de 80% des Congolais se retrouvent. Est-ce que nous devons vraiment nous taire par rapport à ce que les gens vivent, ou bien quand ça ne va pas, nous sommes aussi en droit de prévenir, de dire à qui de droit, chers compatriotes, par rapport à ce que vous faites, ça ne marche pas, vous voyez un peu, il faut un peu essayer de changer. Et comme quatrième point de suggestion, mon ami Pierrot, j'ai toujours dit, c'est pas moi qui l'ai dit en premier, aucun pays ne peut se développer sans l'implication de ses propres fils. Aucun pays ne peut aller de l'avant si ses propres fils semblent être absents sur sa bonne marche. Et le développement de la RDC, sa vraie gestion, c'est d'abord, ça doit d'abord être l'affaire des Congolais. Donc si c'est d'abord notre affaire, nous avons des lois, nous devons arriver à mettre toutes ces lois en pratique, nous devons arriver à placer toutes ces lois au-dessus de tout le monde, mais pour y arriver, nous avons d'abord besoin que les citoyens congolais se ressaisissent. Donc, les citoyens congolais doivent vraiment se remettre en question. Il lui faut une catharsis morale, une catharsis idéologique. Son civisme doit être repensé. Parce que quand vous avez des gens qui ne travaillent que pour leur ventre, qui ne travaillent que pour leur parti politique, qui ne travaillent que pour leur famille, l'argumentation qu'ils présentent en public, ça devient du sophisme. Même quand ça ne va pas, ils savent de l'intérieur que ça ne va pas, mais en argumentant, en présentant leur vie, ils cherchent à se donner raison.
Voilà. Alors tel que vous l'avez présenté, Franck, vous êtes revenu sur la question de la responsabilité collective, et puis aussi le respect des lois pour améliorer la gouvernance. On revient à vous directement, Maître Gabin Lelendo. Vous avez suivi les commentaires qui sont exprimés sur toutes ces questions. Quelle est votre réaction en écoutant les uns et les autres, Maître?
Oui, mais aussi bien Sylvain, Olivier et Franck, ils se sont complétés et ils ont tout à fait raison de dire qu'effectivement, il faut que les lois puissent être opposables à tout le monde, l'égalité de tous devant la loi. Le président de la République doit accepter le reproche. J'ai aussi noté le fait que, effectivement, il faut réformer l'État, assurer l'indépendance, la séparation de pouvoir. Ça, c'est du classique, ça, c'est du connu. Tout le monde sait que le problème se situe à ces niveaux-là. Mais vous voyez qu'une réforme qui serait faite, c'est toujours, ou des réformes qui seraient faites, c'est toujours une très très bonne chose. Mais ces réformes sont faites par les hommes, et ces hommes doivent être des hommes intègres. Regardez par exemple, la composition actuelle de la CENI. La CENI a une plénière constituée de 13 membres. Et parmi les 13 membres, vous avez 6 membres qui sont dans le bureau de la CENI. Avec une composition telle que sur les 13, vous avez 6 membres qui appartiennent à la majorité. Vous avez 4 membres qui appartiennent à l'opposition et vous avez 3 membres qui appartiennent à la société civile. Ce qui fait un total de 13 membres. Lorsqu'on dit que la dépolitisation de la CENI, si cela s'entend tout simplement le fait de prendre la CENI donnée à la société civile, mais si la même société civile est à la solde des politiques, eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura une société civile qui va être là, mais qui va faire la même chose. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, l'effort consiste à travailler sur l'homme congolais, comment il se comporte devant un intérêt particulier. Il est capable de sacrifier l'intérêt général au profit de l'intérêt particulier. C'est pour cette raison que je dis, les hommes intègres en RDC commencent à être une espèce rare en voie de disparition, à telle enseigne que les quelques éléments qui sont dénichés méritent une protection tout à fait particulière. Travaillons sur l'homme congolais, montrons-lui qu'effectivement l'intérêt général est au-dessus de l'intérêt particulier. En ce moment-là, il ne va pas se faire corrompre parce qu'il a besoin de s'enrichir, il va travailler pour que la nation lui soit reconnaissante à jamais. C'est tout cela, les réformes, oui, mais ces réformes sont mises en œuvre par des hommes, on va placer des hommes dans les institutions, mais comment ces hommes vont pouvoir se comporter pour travailler dans l'essence de l'intérêt général? La problématique, c'est à ces niveaux-là. La sanction, évidemment, aussi. Les pouvoirs doivent être arrêtés par le pouvoir. S'il y a des gens qui se considèrent comme Dieu le Père, n'ayant de compte à rendre à personne, versant dans la corruption sans être, comment dirais-je, sanctionné, tout cela ne favorise pas l'éclosion d'une classe politique responsable. Raison pour laquelle le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est bas pour qu'effectivement les choses changent. Nous sommes tous conscients que les choses n'ont pas changé, n'ont pas beaucoup évolué dans ces pays. Il a été élu pour changer la vie des Congolais, il a été changé pour amener des réformes nécessaires, placer les hommes intègres là où il faut, pour distribuer la justice pour tout le monde, aussi bien pour les riches que pour les pauvres, aussi bien pour les forts que pour les faibles. C'est tout cela qui doit être fait. Le Congo, c'est un chantier. Et ces chantiers touchent tous les domaines de la vie nationale, de la vie sociale, raison pour laquelle les propositions des uns et des autres sont les bienvenues et le président est très réceptif, c'est pour cette raison qu'il écoute, il intériorise, il a une idée sur la gestion de la République. Maintenant, c'est l'apport de chacun de nous avec le soutien que nous allons pouvoir lui apporter pour les réformes qui vont être menées, les hommes qui vont être placés à la tête des institutions qui doivent être des hommes intègres pour gérer la République au nom de l'intérêt général. C'est tout cela qui doit être fait.
On va revenir à vous, maître, d'un moment à l'autre, le temps d'écouter encore des auditeurs. Sonville est à Lubumbashi et Dieudonné à Mahagi. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081-890-4969, 081-890-4969. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs pour commenter ces sujets.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Sonville, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Par rapport à la thématique, c'est une bonne chose, les recommandations sont tout à fait fondées et surtout que ces recommandations viennent des princes de l'Église. Et surtout que le président, le chef de l'État actuel est réceptif, il aime collaborer avec tout le monde puisqu'il place l'intérêt de la population au milieu de ses préoccupations. Mais néanmoins, comme ce sont les prêtres de l'Église qui ont fait ces recommandations, les prêtres de l'Église ont le devoir d'éduquer leurs adeptes, puisque l'Église catholique est constituée de 80% de la population du Congo, peut-être 70%. Et l'Église catholique doit éduquer, doit moraliser ses adeptes pour aider le chef de l'État et son gouvernement d'aller de l'avant et de restructurer, de réformer l'appareil judiciaire, de réformer la CENI, parce qu'il faudrait qu'il y ait des hommes intègres, comme l'a dit notre intervenant. Il faudrait qu'il y ait des hommes intègres, il faut qu'il y ait des hommes qui ont bonne presse dans la vie. Alors, pour avoir ces gens-là, l'Église catholique a le devoir, pas seulement l'Église catholique, même l'Église protestante, même les églises de réveil, puisque la majorité de ceux-là qui les dirigent prient dans des églises. Ils prient dans l'Église catholique, ils prient dans l'Église protestante, ils prient dans les églises de réveil. Mais pourquoi ne pas les moraliser et prêcher l'amour de la patrie? Ce qui manque aux Congolais, c'est l'amour de la patrie. Une fois que nous intériorisons l'amour de la patrie, rien ne sera impossible. Mais par rapport à la faisabilité des recommandations, il est encore trop tôt pour essayer un peu de mettre des pressions sur le chef de l'État. Vous voyez qu'il a pris le pays après 18 ans de règne dans la médiocrité, après 18 ans de règne dans la dictature, après 18 ans de règne d'installation des officines au service de l'ex-pouvoir de M. Kabila. Il faut donner le temps au temps, permettre à ce que le président puisse mieux visionner, puisse prendre des décisions qui n'iront pas à l'encontre même de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, les donneurs de leçons sont très nombreux. même n'importe qui, une fois que le président commet une petite erreur, c'est tout le monde qui parle. Alors qu'il faut lui donner le temps. Mm-hmm. Et que le prêtre de l'Église puisse se servir des conseillers du chef de l'État. Parce qu'on voit la façon dont il est en train de diriger. Il y a eu des invalidations que nous déplorons. Des députés, il y a des histoires qui se passent. Il y a le président qui nomme les mandataires de l'État, madame le ministre de portefeuille refuse de les notifier. Tout ça, il faut remettre ça en cause. Il faudrait que de l'autre côté, M. Kabila sache que lui, son pouvoir est déjà à terme. Il doit laisser main libre au chef de l'État d'évacuer aux occupations afin de réaliser les objectifs tant attendus par la population. Qu'il puisse les laisser les mains libres.
Merci.
Effectivement, il y a une certaine coalition qui existe. Mais néanmoins, qu'on laisse le président œuvrer, puisque les actes qu'il a posés jusqu'à preuve du contraire, ce sont des actes de bonne volonté. Il faudrait maintenant qu'il y ait le concours de tout le monde. Surtout du côté de FCC avec M. Kabila. Il ne faudrait pas qu'il se croie qu'il est au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution. Qu'il laisse le président actuel et de vrai pour l'intérêt de la population. Et au-delà de ça, par rapport à la CENI, moi je pense qu'il faudrait une réforme totale de la CENI. Il faudrait que cette CENI soit dépolitisée. Et je demandais à ce que la société civile s'occupe de la CENI. Mais quel genre de société civile? Parce que dans la société civile, nous assistons aussi à des dérapages. Il faudrait qu'il y ait déjà des chefs de civil intègres qui doivent représenter, qui doivent être apolitiques, qui doivent être neutres pour que les élections ne puissent pas jeter de l'opprobre sur la nation.
Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonville.
Pas seulement la CENI, nous devons aussi parler de la Cour constitutionnelle. Mm-hmm. Nos magistrats, nos hauts magistrats ont jeté l'opprobre. Or, on a toujours dit que la justice élève la nation. Par contre, notre justice jette l'opprobre, jette le discrédit
voilà.
sur la nation.
Merci beaucoup, Sonville. Vous avez relevé beaucoup d'éléments, hein. Vous l'avez dit. Hein. L'Église, c'est normal, mais l'Église a des membres. Ce sont les membres de l'Église, en principe, qui doivent être enseignés à être des hommes intègres. Non, pas seulement l'Église catholique, mais l'ensemble des Églises. Si le chef de l'État a besoin des hommes intègres aujourd'hui, vous estimez que l'Église peut donner des hommes intègres à condition que l'Église éduque aussi les membres à être des hommes intègres et les forme à cela. Il faut aussi d'abord qu'on laisse le temps au chef de l'État de pouvoir organiser sa politique. Mais vous avez aussi estimé qu'au niveau de la coalition FCC Cash, que le chef de l'État ait les mains libres pour travailler, parce que vous estimez qu'il y a tellement l'ombre du FCC et de l'ancien président dans cette façon de travailler. Autant de questions qui sont soulevées, la réforme de la Constitution, de la CENI, ainsi que la Cour constitutionnelle, que chacun travaille pour permettre au chef de l'État d'accomplir sa mission. Merci beaucoup. Dieudonné, vous êtes à Mahagui. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio de la Paix.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour les thématiques du jour. Et je salue à passer mon ami Franck et l'invité d'ailleurs. En fait, je salue aussi particulièrement le point de vue des hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Pierrot, mais nous savons tous d'où venons-nous. Même les évêques le savent. Et puis, peut-être que aujourd'hui on semble un peu ignoré, mais sinon, nous savons que la République démocratique du Congo vient de loin. Et tout le monde ne savait peut-être si on allait partir dormir ou bien se réveiller. Aujourd'hui, effectivement, nous avons un pas. On a essayé un peu de devancer. Mais dire aujourd'hui que Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi doit allumer peut-être le feu tout à déracinant l'ombre de l'homme de Kingakati, faire disparaître Kabila et ses fidèles de l'espace politique. Je pense que c'est encore, aujourd'hui c'est très tôt, parce que les FCC et les CACH, ils ont signé un accord et c'est un accord qui les relie. Et dire que peut-être le président ait l'authenticité ou même l'autorité et le contrôle exact, c'est vrai. Mais contrôler tout en épargnant les uns, tout en écartant les autres, ça ne va pas créer des consensus. Et ça risque de plonger encore le pays dans un chaos. Parce que quand nous voyons bien, depuis l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est le FCC qui est au top. Bien, tout le monde aujourd'hui dit que non, et chacun peut dire que le pouvoir de Kabila a
enfoncer le pays dans un trou profond. Kaduna a aussi fait le côté négatif, bien sûr, mais il y a aussi le côté positif. C'est le moment maintenant de canaliser. Et je veux dire, monsieur le Président, bien sûr, par rapport à cette recommandation, d'aller avec les principes, parce qu'il travaille aussi, effectivement, il travaille beaucoup. Il est chez nous à Ituri. Quand on voit son action sur le terrain, ça nous encourage. Vraiment, ça nous donne la joie. Mais on doit créer l'esprit d'unité, mais aussi voir comment travailler ensemble. Dire que comme il est parti aujourd'hui, on doit mettre fin. Non, ça prendra du temps, Pierrot. C'est progressif. Et aussi, je vais peut-être dire à nos amis de Cash, oui, effectivement, ils ont travaillé parce qu'il y a un accord. Mais ils ne doivent pas aussi pleurnicher parce qu'il y a accord, il y a aussi accord. Ils doivent donner tout ce qui reflète l'intérêt général de la du peuple congolais. Aujourd'hui, chacun dit que non, la Cour constitutionnelle pose problème. Oui, l'invité a bien souligné que le problème qui réside aujourd'hui, c'est un problème d'homme. C'est l'homme politique congolais qui doit d'abord se retrouver. Faire qu'on appelle Zamir Yakazi, conscience professionnelle. Dire que moi, étant citoyen, je dois travailler pour le bien-être de mon pays. Je ne dois pas travailler au compte du cash. Je ne dois pas travailler au compte du FCC parce qu'aujourd'hui, on semble dire comme si le FCC était démon et le cash qui est l'ange. Non. Aujourd'hui, c'est le moment de finir, le moment de voir comment travailler dur pour faire sortir la République démocratique du Congo et émerger ce pays. Parce que quand on se met seulement à susciter quelqu'un à commettre des actes qui peut demain ou après demain que tout le monde peut regretter, moi, je m'inscris en faux.
Mmh. Bien sûr, voilà.
Nous sommes censés veiller sur le... Mmh. Oui, Pierrot, je veux continuer par dire que nous sommes censés veiller sur le bien-être social et moi, j'encourage le président. Je l'encourage d'aller de l'avant, mais d'aller
Merci.
Aussi avec toute prudence.
Merci beaucoup, Dieudonné. Vous avez insisté sur la prudence, c'est très important. On donne la parole directement à notre invité, Maître... Gabin Lulendo qui est communicateur cash, parce que les auditeurs sont revenus sur la collaboration FCC cash. Vous estimez qu'aujourd'hui on ne peut pas tout rejeter d'emblée dans cette coalition parce qu'on a besoin de la paix. D'ailleurs, le chef de l'État est revenu là-dessus dans son point de presse tenu dernièrement sur les médias internationaux sur la question de la paix. Alors Maître Gabin, est-ce que aujourd'hui estimez-vous que dans la coalition FCC cash le chef de l'État est-il assez épanoui, libre de pouvoir appliquer sa politique, parce que ça aussi, le souci des auditeurs, c'est de voir au sein de la coalition permettre à ce que le chef de l'État arrive jusqu'au bout avec sa politique, Maître Gabin.
Personne ne détournera le président de la République de son objectif. Il est déterminé, il a été élu pour apporter les changements au pays, il se bat pour apporter les changements au pays. Personne, alors personne, et parce que ces changements, c'est l'aspiration profonde de notre peuple, le président va aller dans les sens voulus par le peuple, les changements, à tous les niveaux. Les vrais problèmes, ce que je vous ai dit, regardez très bien. La CENI, depuis 2006 ou 2007, etc., ou même avant 2006, qui était le président de la CENI? C'était Apollinaire Malumalu, un prêtre. Plus tard, c'était Ngoï Mulunda, un homme de l'Église. Plus tard, c'est encore Abbé Malumalu qui est revenu, l'homme de l'Église, et paix à son âme. Et aujourd'hui, Corneille Nanga, l'homme de l'Église. Donc, vous voyez que tous ceux qui se sont succédés au niveau de la CENI, ce sont les hommes de l'Église. Et pourtant, leur gestion a été décriée presque par tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Vous voyez qu'à un moment donné, ce n'est pas les faits, ce n'est pas automatique en disant, oui, si on prend ces gens de la société civile, on prend tel de l'Église, on les met là-bas, ça va marcher. Je vous dis, c'est un problème d'homme. Cet homme intègre peut se retrouver dans l'Église, tout comme cet homme intègre peut se retrouver en dehors de l'Église. Il est question que nous puissions dénicher les hommes intègres qui ont une haute valeur de la République et qui vont gérer la République pour l'intérêt de tout le monde. C'est cela la chose la plus importante. Mm-hmm. Parlons-en, coalition FCC cash. Écoutez, vous savez, je vous dis, le président de la République est tenu au respect de loi et de la Constitution de la République. Il n'est pas au-dessus de la Constitution, il n'est pas au-dessus de loi de la République. Il faut que les gens le comprennent aussi. Parce qu'à un moment donné, quand ça va mal, on veut que l'État, les présidents de la République violent la Constitution, violent les lois de la République pour rencontrer les préoccupations de ceux qui disent que les choses ne vont pas, et ils ont raison de dire que les choses ne vont pas, il faut faire très attention. Les présidents doivent trouver les ajustements nécessaires entre les prérogatives qui lui sont reconnues et le fait qu'il doit amener les changements, avec aussi le fait qu'il est tenu à respecter la Constitution et les lois de la République. Quand ça bouillonne au niveau de la Cour constitutionnelle, les gens disent « oui, il faut chasser les magistrats de la Cour constitutionnelle ». Mais le loi de la République voudrait bien évidemment que les procédures puissent être respectées pour arriver à telle ou telle autre décision qui puisse être prise. Et les présidents de la République, devant sa conscience et devant le loi de la nation, il doit regarder les justes milieux. Ça fait un demi-siècle que ce pays est détruit, s'il vous plaît. Un demi-siècle. Alors, nous voulons réformer les choses, nous voulons les changements, eh bien, nous allons obtenir ces changements-là aussi, doucement, lentement, mais sûrement. Parce que des réformes brutales vont encore plus créer des problèmes que le résoudre. Raison pour laquelle, conscient du fait que le peuple aspire au changement et que le président de la République n'a pas de choix que de se battre pour que les changements voulus par notre peuple arrivent, et soyez un peu patients, parce qu'effectivement, ça fait seulement 5 mois qu'il est au pouvoir. Il est en train de faire ce qui est de son pouvoir pour améliorer la situation, aussi bien la gouvernance économique, sociale, en termes de respect des droits de l'homme aussi, etc. Mais aussi les réformes institutionnelles nécessaires, parce que nous avons besoin des institutions qui répondent aux besoins de la nation. Et donc un peu de patience, parce que je sais que les gens ont tellement aspiré au changement qu'une fois que le président Félix Tshisekedi a été élu, ils pensent que c'est comme par une baguette magique que les choses vont pouvoir se transformer. Eh ben, on y va avec beaucoup de prudence. Mm-hmm. C'est pourvu que les changements tant attendus arrivent. Un peu de patience, c'est nécessaire aussi.
On va écouter Pascal qui est à Dungu, Eli est ici à Kinshasa. Pascal, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir accordé la parole.
On vous écoute.
Alors, pour la thématique d'aujourd'hui, je suis très conforté. Et ce que je dois dire, que le problème du Congo est un problème d'homme. Et pour résoudre, ça va couler des encres. Monsieur le journaliste, ce que je vais proposer, ça se divise en deux grandes parties. Il y a ce que j'appelle la volonté politique. Et puis, il y a aussi, au préalable, bien chercher l'homme capable de diriger telle institution ou telle organisation. Monsieur le journaliste, allez-y comprendre qu'il y a de cela quelques mois que le Conseil de la magistrature avait déniché 200 magistrats qui avaient de faux documents. Alors, je me pose la question de savoir, ces magistrats-là, ils ont fait 4 ans, 5 ans, avec quels documents et dans quels moyens qu'ils ont pénétré au concours et jusqu'à ce qu'ils soient ordonnés comme magistrats, 3 ans, 4 ans après, qu'on va dire que non, il y a 200 magistrats. Et jusqu'à présent, il n'y a pas le procès ou le procès ouvert contre ces magistrats-là qui sont effrités dans la magistrature. Et c'est ça que je dis. Quand il n'y a pas la volonté politique, chacun fait de sa façon. Ce qu'on appelle de la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres qui sont nommés d'une manière ou d'une autre. On peut dire que ne sont nommés parce que vu leurs compétences, vu ce qu'ils sont en train de produire, ça ne reflète pas ce qu'ils sont et ce qu'on attendait d'eux. Et puis, il faut d'abord, avant de donner la responsabilité, il faut voir au préalable la vie intérieure. Quelqu'un, monsieur le journaliste, qui est un agriculteur, qui fait l'agriculture dans la périphérie. Et aujourd'hui, demain, comme c'est son grand frère qui est X, il sort de l'agriculture, il n'a même pas un vélo, il n'a même pas la maison. directement, on lui donne la responsabilité. La première des choses, il va chercher d'abord à acheter la maison pour qu'il puisse sortir dans la location. Il va chercher les moyens de transport et il ne s'occupera pas de la population. C'est ça que je dis, que donc, il faut d'abord chercher l'homme capable à intégrer dans des institutions. Et il faut bien dénicher qui est capable. Un agronome qui est aujourd'hui député et ministre de l'éducation, qu'est-ce qu'il va donner par rapport à l'agronomie? Et D6, il y a des licenciés en droit et D6 qui est aujourd'hui député et on lui donne le ministère. Tu vois, c'est ça qui détruit notre pays. Et si on dit les réformes, nous devons réformer, on n'aura pas de solution. Si la CEPA peut nous dire qu'il va faire descendre les anges du ciel pour la terre pour intervenir à ce que le Congo. Là, je serais d'accord, mais si avec les hommes congolais que nous sommes, avec les criminels qu'on nous fait, là, on n'aura pas de changements. Aujourd'hui, on parle de la CENI. Il y avait Ngoï Moulunda. Ngoï Moulunda, on l'avait critiqué. C'était un pasteur. Abbé Apollinaire Malouval, c'était un prêtre comme le prêtre de Seko. On l'avait aussi critiqué. Aujourd'hui, l'autre qui on vient de Nanga, on vient de le critiquer. Demain, on peut prendre sur l'autre de la société. On le critiquera aussi longtemps qu'on n'a pas encore résolu en amont ce que je viens d'énumérer. Merci, je vous en prie.
Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Nous retournons ici à Kinshasa. Elie, merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Capi. Je remercie d'abord la pertinence, même. Des recommandations faites par les évêques de la Synco. En tout cas, je suis très convaincu qu'il faut que le président de la République, son Excellence Félix, puisse assumer des responsabilités lui reconnues par la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aspiré, n'est-ce pas, les changements pour lesquels nous nous sommes assignés, et qu'il faut à tout prix que le président de la République et qui parle au nom du peuple congolais, puisse faire son travail que la Constitution lui reconnaît. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une confusion de la manière dont le président de la République a peut-être des difficultés pour exercer le mandat qui lui est déféré par la Constitution, le fait qu'il veut en tout cas hypothéquer, n'est-ce pas, sa responsabilité pour des caprices de certains leaders politiques avec lesquels ils travaillent aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que l'FCC les cache du fait qu'ils travaillent ensemble aujourd'hui. Or que la population congolaise ne veut pas, parce que nous devons lui dire des choses comme nous les connaissons d'ailleurs. On ne peut pas fermer la bouche quant à ça, parce que les régimes anciens, les régimes de l'ancien président de la République, c'est un régime qui avait failli à sa mission. Et lorsque le président de la République travaille avec toutes ces personnes, en tout cas, le pays risquerait d'entrer dans une gouffre que nous n'allons même pas nous en sortir. Je voudrais parler, quand la CENCO parle du fonctionnement de la Cour constitutionnelle quant à ce qui concerne les arrêts et la malhonnêteté même et de la décision biaisée que prenne la Cour constitutionnelle, je pense que nous devons aussi tout dire, tout haut, parce que la Cour constitutionnelle, comme la haute juridiction de l'ordre constitutionnel, doit faire les contrôles de sa constitutionnalité et faire publier les arrêts au nom de la loi. Mais ce que nous avons aussi vu depuis même les régimes de M. Kabila, quand la Cour constitutionnelle avait même interprété l'article 70, nous devons tout dire que cet article a été malhonnêtement interprété par la Cour constitutionnelle. Et la Cour avait même poussé le président de la République de commettre l'infraction de la haute trahison. Et ce qui a fait en sorte que, aujourd'hui, le fait que cet article a été mal interprété, il y avait une interprétation asymétrique, nous nous retrouvons dans un chaos inacceptable. Et
donc, alors, quand vous parlez de chaos inacceptable, quand vous parlez de chaos, ça veut dire quoi exactement, Elie? Le chaos, c'est à quel niveau?
C'est au niveau où, parce que j'y ai un Pierrot, permettez, lorsque vous estimez le nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause des manifestations, des marches pour réclamer le respect de cet article, je prends le cas de nos frères qui ont été cambriolés, les autres sont morts aujourd'hui à cause de cet article 70. Il dit dans son alinéa premier.
Alors, Elie, nous avions eu, je crois, 3 ou 4 ou 5 émissions autour de de l'article 70, vous rappellerez, avec le professeur Tuba Nkalala, on a eu beaucoup de débats autour de l'interprétation de ces articles par la Cour constitutionnelle, je crois. Mais votre souci aujourd'hui, hein, comme si on vous suit bien, c'est que le chef de l'État, partant des recommandations des évêques de la SENCO, arrive à assumer son rôle comme la Constitution le prévoit. Mais vous voulez aussi, hein, que surtout, au terme des accords politiques, qu'il n'arrive pas à violer la Constitution. Et d'ailleurs, notre invité a insisté pour dire que les gens voudraient voir le chef de l'État faire beaucoup de choses, mais il faut que tout ce qu'il doit faire puisse rester dans les limites de ce que la loi lui permet de faire. Il y a beaucoup de commentaires sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. On va revenir tout à l'heure à notre invité pour conclure cet échange. Il y a par exemple notre ami Josué Hassani qui nous écrit des Bukavu. Il dit ceci. Et tout doit d'abord revenir, n'est-ce pas, à la volonté politique de pouvoir agir. C'est pour la première fois où on a un ancien président et un nouveau président. Il faut qu'on arrive à avoir des limites sur l'action de l'un et de l'autre. Vous avez suivi son ville qu'il a dit en début d'émission. Alors, il y a Christian, par exemple, qui estime que la première chose qu'il faut faire, il faut d'abord qu'on puisse éviter au niveau de la justice des procès fantaisistes. C'est à ce niveau-là qu'on va améliorer la gouvernance. Il faut lutter contre la corruption. Il faut qu'on arrive à avoir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et tout ça, ça doit se faire dans une volonté politique manifeste. On revient à vous, Maître Gabin Lolendo, pour conclure cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est le mot de conclusion?
Je dois d'abord vous dire que dans une société, les gens ne volent pas parce qu'ils n'ont pas envie de voler. Lorsque vous êtes devant l'argent, la tentation est grande, mais c'est à la République de mettre en place des mécanismes de contrôle pour permettre justement à celui qui vole non seulement d'être déniché, mais ensuite d'être sanctionné. En ce moment-là, les mécanismes mis en place ont un caractère dissuasif. Parce que regardez, si on ne met pas en place des mécanismes qui permettent non seulement d'identifier les voleurs, et surtout quand on a identifié les voleurs, les sanctionner sévèrement, la conséquence c'est quoi? C'est que chacun peut être tenté de pouvoir voler. Aujourd'hui, il existe des outils pour lutter contre la corruption à travers le monde. Des outils très efficaces au sein de l'administration, au sein de l'administration d'une façon générale, l'administration fiscale et tout autre, de telle sorte que une fois que les détournements ont eu lieu, une fois que la corruption a été commise, on peut, à travers des mécanismes, des outils qui existent, identifier et sanctionner les auteurs. En ce moment-là, les gens vont avoir peur. Mais s'il y a un laisser-aller, nous disons, bon, mais écoutez, nous allons lutter contre la corruption et entre-temps, nous ne faisons rien, rien n'arrivera. C'est le contrôle qui permet à un individu de dire, oui, ça me tente de pouvoir voler, mais là, si j'essaye, on va m'arrêter et je vais aller en prison. La personne va avoir peur. Les contributions des uns et des autres ont été importantes dans ce débat tout à fait démocratique que Radio Capi nous offre. Nous pensons que chacun de nous va pouvoir tirer les leçons. Mais seulement, je dis, mettons l'homme au centre de tout.
Merci.
Réforme, oui, mais si nous ne mettons pas l'homme au centre de tout, rien ne se fera. Et le président de la République ne ménagera aucun effort pour arriver au changement.
Merci.
Il y a des gens qui racontent des trucs en disant oui, il est le président de la République n'est pas dans une prison. C'est la raison pour laquelle le gouvernement tarde, parce que il veut avoir un regard sur les gens qui vont être nommés au niveau des différents postes ministériels, de telle sorte qu'en disant oui, avec ces gens, j'espère au moins qu'ils vont s'imprégner de ma philosophie et que les lignes vont bouger. Soyons patients. Le président est déterminé à changer le cours des événements dans ce pays.
Merci beaucoup.
Ça va venir lentement, mais sûrement alors.
Merci. Merci beaucoup, Maître Gabin Lolendo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes avocat, porte-parole adjoint de l'UNC et communicateur cash. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, mais cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci à Mimi Kindou qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalamba et Pierrot Elamenji. J'ai eu le réel plaisir de vous le présenter. On se retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Mais le programme se poursuit sur Radio Capi. Merci, au revoir.